Cette semaine, un autre monde de Stéphane Brisé, un cadre d'entreprise, l'un dont sa femme, sa famille, au moment des choix professionnels de l'un, font basculer la vie de tous. Cadre performant dans un groupe industriel, il ne sait plus répondre aux injections incohérentes de sa direction. Il est assez unique, ce duo Brisé-Lindon. L'acteur se plonge dans la vie des autres, se met à leur place, prend leur colère et s'entoure de vraies personnes dans de vraies situations, mais filtrées par le cinéma. Alain Cavalier, dans Pater, imaginait l'hypothèse. Brisé, lui, la concrétise, Laurent.
Oui, alors, j'ai lu un de mes confrères qui dit que c'est l'alliance de Sauté et de Loach. Comme si dans Sauté, il n'y avait pas de social et dans Loach, il n'y avait pas d'intime. C'est assez curieux de trouver des choses comme ça. C'est en fait plutôt du Brisé. Bon, voilà, enfin, il faut espérer que ça soit du Brisé, parce que le film est signé par lui. Donc. Et du Brisé, c'est quoi? Ben, c'est une sorte quand même d'humanisme cheville au corps. Hein. C'est vraiment la déclaration humaniste poussée à ses extrêmes. Ici, il s'agit bien de nous dire que même les cadres sont victimes de la crise en cours et que tout est crise aussi, avec par exemple cette formule qu'on pourrait presque voir chez Lelouch. Tout est précaire aujourd'hui, l'amour est précaire, la santé est précaire, le travail aussi. Bon, d'accord, ok, très bien, on a dit ça comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on dit d'autre? C'est ça, où est l'autre monde au fait? C'est la question qu'on peut se poser. Si c'est uniquement la vie familiale qu'on nous promet comme une sorte d'Eldorado, on peut se dire un peu déçu. Alors je vous conseille quand même la lecture d'un livre aux éditions Leitmotiv sur le couple Brisé-Lindon. C'est un ouvrage très intéressant de Quentin Victory Lédier, même s'il est plus analytique que critique. Mais ça vaut le coup par rapport à ce couple, effectivement, de cinéma.
Piccolo Corpo, c'est un premier film d'une Italienne qui s'appelle Laura Samani, Italie 1900. Le bébé de la jeune Agatha est mort-né et ainsi condamné à errer dans les limbes. Il existerait un endroit dans les montagnes où son bébé pourrait être ramené à la vie le temps d'un souffle pour être baptisé. Agatha entreprend ce voyage et rencontre Lynx qui lui offre son aide. Ensemble, ils se lancent dans une aventure qui leur permettra de se rapprocher du miracle. Laura Samani a découvert, comment appeler ça, cette folle coutume dans sa région du Frioul-Vénétie. Et donc elle se sert de ce terrifiant et magnifique argument pour aborder à la fois la maternité, la sororité dans ce road movie qui est un chemin de croix d'une femme qui va aller au-delà de ses forces, contre les traductions machistes. Et ce qui est vraiment beau dans ce film, c'est le mélange très réussi entre réalisme et mythologie, cette façon de vous faire croire aux deux dans une mise en scène sublime et qui ne lâche pas sa protagoniste, son incroyable résistance, jusqu'à cette fin miraculeuse. Ça s'appelle Piccolo Corpo.
Oui.
Une cinéaste est née.
Absolument. On va pas peut-être l'ensevelir, mais enfin, sous les hommages. Mais on pense d'abord à Alice Rohrwacher, je trouve, dans ce mélange que vous disiez de réalisme et de sacré et de poésie. Et puis, peut-être au-dessus, Rossellini, Pasolini. Enfin, voilà. Oui, effectivement, une cinéaste italienne est née. Ça fait beaucoup de bien de voir cette fable, ce conte qui s'appelle Piccolo Corpo.
Et elle aura sa manie. Les affluents de Jesse Michelli, une photographie de la jeunesse cambodgienne, leur rend trois portraits aux accents queer et naturalistes.
Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que le réalisateur est français, mais effectivement, il tourne au Cambodge, et c'est un film uniquement sur Phnom Penh, ses rues, ses nuits, son paysage urbain, ses touristes aussi, beaucoup. Il y a une justesse absolue, une sorte de ton documentaire qui rattrape un peu le flottement parfois du jeu des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels et qui, comme ils ne sont pas dirigés par Emmanuel Maher, mais parfois ça flotte un peu. mais néanmoins, le film est plein d'intérêt, plein justement de cette ville et plein de ce pays. Donc on retient pour cela les intentions absolument magnifiques du film.
La vraie famille de Fabien Gorgeard, dont on avait beaucoup aimé Diane à les épaules. Encore une femme au centre de son film, une mère d'accueil, c'est Mélanie Thierry, qui considère comme son troisième enfant ce petit garçon recueilli à l'âge de 18 mois et désormais âgé de 6 ans, comme son propre fils. Nous sommes au début du film et son père biologique, c'est Félix Moati, désire le récupérer. Le film raconte ce déchirement, celui qu'a vécu la propre mère du réalisateur, avec ce petit frère accueilli, pareil, dans les mêmes conditions et jusqu'à 6 ans, une famille pleine d'amour donc. Idéalisé à l'image, idyllique scène de jeu, de fête ou de petit déjeuner ricoré. On voudrait tous en faire partie de cette famille. Bon, là, c'est le cœur dur qui parle. Et puis, on sent qu'il a cette actrice, Mélanie Thierry, l'émotion pure, comme l'a titré Télérama cette semaine, capable d'exprimer sur son visage toutes les palettes de sentiments devant ce cruel dilemme, Laurent.
Oui, je crois qu'il faut retenir Mélanie Thierry et oublier le reste qui est un ramassis de clichés de pub assez incroyables sur la famille.
Nous, c'est un documentaire d'Alice Diop, une ligne du RER B traversée du nord vers le sud, des rencontres, une femme de ménage à Roissy, un ferrailleur au Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain à Gif-sur-Yvette et le suiveur d'une chasse à cour en vallée de Chevreuse.
Oui, oui, c'est tout à fait étonnant cette façon qu'a Alice Diop de s'emparer de cette question. Le « nous », je crois, nous travaille beaucoup en ce moment, en cette période d'élection présidentielle. On va beaucoup en parler, on en parle tous les jours. Et cette radiographie à travers, effectivement, cette banlieue, région parisienne où on croise ses habitants au quotidien qui sont à la fois, effectivement, des chasseurs à cours, et puis évidemment des anonymes, des membres de la famille de la réalisatrice. Tout ça fait un portrait, je dirais, craché, juste, vraisemblable de la France d'aujourd'hui. On peut considérer que c'est insuffisant, on peut considérer que les analyses sociologiques sont trop limitées, mais la présence du sociologue Pierre Bergugnou permet de valider tout ça. Et puis, et à titre personnel, évidemment, je dirais qu'un film qui se termine par « Ma France » de Jean Ferrat ne peut pas être un film foncièrement mauvais.
On va jumper sur Media Crash, qui a tué le débat public de Valentine Auberti, Luc Herrmann. Jamais la France n'a connu une telle concentration des médias privés, au détriment, bien sûr, de l'information d'intérêt public.
Salutaire dénonciation, bien évidemment. Après, on peut toujours se poser la question des journalistes qui réfléchissent sur les journalistes. Ça crée une sorte d'effet de miroir sur lequel il faudrait un peu s'interroger. Parfois, il y a des approximations, parfois, il y a des raccourcis, voilà. Mais bon, tout débat en cours est à traiter. On imagine le nombre de séances de ciné-club que ça va donner dans les salles de cinéma, et de ça, on ne peut que se réjouir.
On va terminer avec la révélation d'une cinéaste japonaise. Elle s'appelle Kinuyo Tanaka. Et on sort 6 films d'El Carlotta, sort 6 films inédits.
Bravo, ça découle du Festival Lumière à Lyon, qui avait programmé cette cinéaste des années 50 et qui est d'ailleurs à l'origine d'abord une actrice de Mizoguchi Dozu, et dont Bette Davis disait « Je suis la Tanaka de l'Amérique ». Voilà, ça veut tout dire. Et en tant que réalisatrice, elle a fait des superbes mélos au féminin et des mélos féminins un peu à la Douglas Sirk, avec vraiment, vraiment une attention au sort des femmes qui est tout à fait étonnante pour cette période-là.
Et pour finir, on a un petit peu de temps, on va offrir des cadeaux à nos invités.
Mais oui, alors à nos deux actrices présentes sur le plateau, on va offrir 2 livres, les mêmes. Le premier, ça s'appelle Actrice sorcière, c'est un message à l'intention de Déborah et d'Adèle. Il est signé Thomas Téland, vous allez voir, c'est un très très beau petit essai sur effectivement toute une série de ces actrices qu'on aime évidemment beaucoup, Dahl, Argento, Jeanne Moreau, Tilda Swinton, d'autres encore. Toujours chez Capricci, alors là, la publication d'un inédit, c'est L'art du jeu d'acteur. Bon, vous n'avez rien à apprendre toutes les deux, d'accord, mais c'est signé Stella Adler. Il y a 22 leçons d'actorat. On vous les donne aussi, hein, Déborah, ne vous inquiétez pas. Cette femme américaine, elle a juste formé, excusez-moi du peu, Brando, De Niro, Hervé Kettel et quelques autres. C'est tout à fait passionnant quand même sur effectivement comment faire naître chez l'acteur encore un peu plus de jeu, encore un peu plus d'allant dans la façon d'interpréter ses personnages. Ces 2 bouquins tout à fait passionnants, tout à fait cinéphiles, ils sont donc édités chez Capricci, qui décidément rehausse le niveau de l'édition cinéma en France.
On
merci.
20 secondes ensuite pour les cadeaux. Pour
20 secondes. Alors ça sera pour Emmanuel Mar, Le Salaire du Diable de Jack Arnold avec Jeff Chandler et Orson Welles. C'est chez Rémini et c'est sec et c'est nerveux. Et puis chez Constant, et puis pour Constant Meyer, pardon, un chef-d'œuvre de Gilles Grangier, d'après Simenon, dialogué par Audiard avec, s'il vous plaît, Jean Gabin, c'est Le Sang à la tête chez Pathé, un bonus illustré par Bertrand Tavernier, on ne s'en lasse pas.